Vibrant, Vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
Je trouve pas de plaisir dans ma sexualité, parce que c'est celle qu'on m'a dictée.
Mettre son doigt dans son vagin,
qu'est-ce qui va faire qu'on va aussi arrêter de se juger entre nous les femmes?
On parle d'énergie sexuelle dans le tantra, et pas forcément de sexualité ou de sexe.
On n'a pas passé 2 mois sous la couette quand même?
Non. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Mais pour commencer, Carole, on va partir d'un constat. Est-ce que tu me suis ?
Bien sûr, Laura.
Alors, j'aimerais revenir sur le fait que nous utilisons tous et toutes les réseaux sociaux. On est d'accord là-dessus ?
Tout à fait.
Ou bien Internet, si certains n'aiment pas les réseaux sociaux. Ok ? Bon, partant de ce principe, vous avez certainement vu, je pense, des informations, des images, des personnalités qui parlent de sexualité.
Tout le monde a vu ça.
Par exemple, on pourrait même malheureusement dire que le clitoris est né sur Instagram.
Malheureusement, ça se passe comme ça aussi.
Bon, alors aujourd'hui, arrêtons un peu ce suspense. Je voulais juste vous faire comprendre que le digital et la sexualité, y a un lien très fort. Et donc ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce que le digital fait à la sexualité ? C'est quoi la sexualité sur Internet ? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin ou pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être sous l'emprise d'Internet pour faire vivre la sexualité ? Et pour ça, on reçoit Léo Trémen pour parler de ce sujet. Bienvenue Léo.
Bonjour.
Léo, on s'est rencontrés il y a quelques années car tu travailles dans l'univers de la communication et des médias.
Ouais.
Et aujourd'hui, si tu es avec nous, c'est parce que tu es illustrateur, notamment sur Instagram, mais aussi artiste digital et queer. Mais je m'avance déjà, j'ai un peu trop teasé sur sa présentation. Alors Léo, je te laisse la place. Qu'est-ce que tu fais ? Qui es-tu ? Comment est-ce que tu te définirais ?
Quelle question très large.
Vous avez une heure.
C'est ça. Alors, je me définis principalement en tant que... Enfin, principalement non, mais je me définis comme être humain queer. Pourquoi queer ? Parce que je suis un homme cis homosexuel. Et aujourd'hui, être queer, qu'est-ce que c'est ? En fait, être queer, c'est être différent. La définition même de queer en anglais, queer, ça veut dire différent, ça veut dire étrange, ça veut dire bizarre. Donc, à la base, c'était une insulte que la communauté LGBTQIA+ s'est réappropriée pour devenir un étendard, entre guillemets, de cette même communauté. Donc, c'est à la fois une façon de parler des gens différents, que ce soit par rapport à la norme qu'est l'hétérosexualité ou par rapport à... même la communauté elle-même, en fait. Donc ça peut être des filles plus masculines, des garçons plus féminins, mais pas que. C'est-à-dire n'importe qui se sent aussi plus politisé, qui veut se battre, en fait, pour les droits de cette communauté, peut rentrer dans cette définition de queer. Et je pense qu'en tant que membre de la communauté LGBT, on se définit d'abord... en fait, je pense que dans la vie, on se définit d'abord comme homme ou femme, parce que c'est ce que la société nous apprend à faire dans un premier temps.
Oui.
Et ensuite, on va forcément se définir par notre sexualité parce que c'est la chose différenciante. Parce qu'on a cette injonction de faire son coming out, de se définir aussi comme ça. Donc, en fait, ça devient pour nous une façon de se définir. Alors que ça ne devrait pas forcément être le cas. En vrai, on s'en fiche un peu de ce qui se passe dans le lit de l'un ou de l'autre. Mais... le fait d'être encore une minorité aujourd'hui nous impose de nous définir comme tel.
Dans le lit ou dans le plaisir ? Parce qu'on le lit, on s'en fiche. C'est ce qui est important, c'est le plaisir.
C'est vrai qu'on peut se faire plaisir n'importe où. Pas chez Castorama, mais n'importe où.
Il y a un placement de produit.
Je ne suis pas sponsorisée.
Et du coup, comment ton travail... Parce que ce que tu dis, c'est que tu es artiste queer. Comment est-ce que ta définition en tant qu'être humain queer... se transmet dans ton travail ?
En fait, moi, je fais majoritairement de l'illustration sur Instagram aujourd'hui. Et je pense que ce que j'essaye de traduire par là, je fais beaucoup de portraits. Et j'essaye de mettre en avant, à travers la ligne éditoriale de mon Instagram, d'autres personnalités queer, d'autres personnes que je vois autour de moi et qui changent le monde grâce à leur sexualité, grâce à leur identité aussi. Donc, principalement ça. Après, je veux aussi dessiner des jolis hommes nus, parce que c'est très joli à regarder, les jolis hommes nus.
On confirme.
mais oui, principalement, j'essaye de, j'essaye de soutenir ou de donner une plateforme à des gens qui soit l'ont déjà et de le faire découvrir à des gens qui ne les connaîtraient pas ou qui ne l'ont pas encore et d'essayer de les aider à grandir, à grandir une audience parce que je pense que c'est ça la communauté, c'est de tous s'entraider pour qu'on puisse tous grandir ensemble.
Et pour préciser, avant de continuer dans cette discussion ensemble, c'est la première fois aujourd'hui dans Vibrante qu'on reçoit une personnalité queer et qui vient justement nous parler non pas de quelque chose d'hétéro-centré et de la norme hétérosexuelle, mais qui vient justement ouvrir sur toutes les sexualités. Donc Léo, il y a quelque chose sur lequel tu aimerais revenir avant de continuer cette discussion, je le sais, puisqu'on a discuté avant. C'est quelque chose qui peut paraître très simple, parce que c'est un mot, mais qui regroupe énormément de choses et de sensibilités, et d'émotions et de particularités. C'est quoi la sexualité, en fait? Et du coup, pour toi, ta définition et ton rapport à cela?
Comme je le disais, pour moi, dans ma perception personnelle de la sexualité, c'est aussi devenu un identifiant. Mais c'est aussi beaucoup plus que ça, c'est à la fois quelque chose qui, pour moi, est une communauté, qui est un lieu de rencontre, de connivence entre des gens, mais aussi un plaisir intime, évidemment, qui se partage seul, à plusieurs, dans plein de moments de vie qui se connectent ensemble et qui créent un tout très sympa à vivre.
Parce que c'est fun, la sexualité, c'est beau. Carole, justement, je crois qu'on avait déjà évoqué dans les premiers épisodes ta définition de la sexualité, mais je trouve ça encore plus intéressant de la replacer aujourd'hui dans cette émission, parce que la sexualité, c'est en mouvement, ça change, ça évolue, c'est différent pour chacun. Et donc, qu'est-ce que c'est, toi, cette définition-là, pour toi, de la sexualité?
La sexualité, c'est l'énergie de vie, c'est le plaisir, c'est quelque chose qui fait partie de nous, de bien se connaître. Et on a tous besoin d'avoir des appartenances. Donc, soit je suis hétéro, homo, queer, enfin, voilà, on cherche une appartenance qu'à mon sens, on ne devrait pas avoir à chercher, c'est... Je vis comme ça ma sexualité, je prends du plaisir, que ce soit ma personnalité personnelle, qu'on soit hétéro, homo, et toutes les définitions. On a chacun sa propre sexualité avec soi-même, dans notre propre masturbation. Et là, on est seul, donc c'est bien nous avec nous-mêmes. Et puis après, il y a notre sexualité avec les autres. On est deux, on est trois, on est plusieurs. Et là, on va chercher une définition, mais... on se fait plaisir et on va chercher du plaisir, on va trouver de la communion avec l'autre pour la sexualité, mais pour aussi déguster un bon plat, pour faire une soirée, pour vivre des bons moments. Et c'est ça le principal.
Qu'est-ce que tu crées du coup, toi Léo, sur la sexualité à travers tes illustrations? Parce que pour décrire un peu l'univers de Léo, mais vous aurez l'occasion bien sûr de checker sur votre téléphone en même temps que vous écoutez ce podcast. C'est des illustrations très colorées, mais en même temps très sobres, puisque ce sont des portraits. C'est très érotique. Ce sont principalement des hommes nus, avec des accessoires. Il y a quelque chose de... Voilà, comment est-ce que toi, tu relierais justement tes illustrations à la sexualité?
Déjà, mes illustrations sont forcément une extension de qui je suis, de ce que j'aime et de ce que j'aime voir et de ce qui me fait vibrer. Donc forcément, il y a beaucoup d'hommes nus, il y a forcément beaucoup de femmes fortes aussi, parce que en tant que personne queer, on a cet attrait pour les personnages féminins forts de la pop culture et de tout ça. Je sais pas vraiment d'où ça vient, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai en commun avec tellement de gens que je rencontre, et c'est assez passionnant, cette convergence vers ces personnages-là. On va trouver... En fait, je crois que la sexualité est devenue tellement, tellement taboue, alors que tout s'ouvre dans le monde, mais il y a encore ce truc où on n'ose pas vraiment parler de sexualité, alors qu'en fait, c'est quand même le moment où on prend le plus de plaisir dans notre vie, ou presque. Et pour moi, c'est tellement important de décloisonner ça, c'est-à-dire que ça fait partie de la vie, ça fait partie de qui on est, ça fait partie de ce qu'on aime faire. Et je vois pas pourquoi on devrait en priver les autres. C'est-à-dire que je vois pas de raison de cloisonner ça, de fermer cette porte-là aux gens qui nous entourent et au monde, parce qu'en fait, ça fait partie aussi de tout ce qui fait qui on est.
Mais surtout qu'à travers tes illustrations, on peut très bien partir de fantasmes, parce qu'on voit des choses, des belles choses, très érotiques, et qu'on soit même hétéro, on peut vite partir sur... l'homme tel qu'il est, même si on peut deviner que l'homme est homosexuel, là, ou queer, ou autre, mais en tant qu'hétéro, on peut tout de suite rentrer dans ce fantasme sur quand on voit ce que tu publies, quoi.
Ça fait plaisir.
Et Carole, justement, en tant que sexologue, qu'est-ce que l'art, enfin la photographie, l'illustration, toute autre forme de contenu artistique, ça permet dans la sexualité? Là, tu parlais du fantasme. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça permet?
Ça permet essentiellement le fantasme. Et puis, ça permet aussi d'apprécier son image corporelle quand on se photographie, qu'on se met en scène chacun. Ça permet de se voir différemment et de se laisser voir différemment, qui me semble très intéressant pour l'estime de soi.
Et Léo, c'est intéressant, Carole, ce que tu viens de dire, parce que, ok, par exemple, Instagram, ça fait énormément de bien, à titre personnel, de voir des femmes avec, avec des vergitures, de la cellulite, parce que moi j'en ai, et dans les photos des magazines, j'en vous voyais jamais. Mais à contrario aussi, ce qui est dur, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de censure sur Instagram, dès qu'on va voir un corps normé. Une femme grosse, parce qu'il y a énormément... Enfin, la société est grossophobe. Quand Barbara Butch, elle se fait censurer sa une du Télérama, alors qu'elle est juste nue en cachant ses seins, et c'est tout. Il n'y a rien de entre guillemets, pornographique là-dessus. Et c'est fou, parce que ça veut dire qu'en fait, ça impose autre chose. Ça veut dire que, OK, mais si je suis... comme je suis naturelle, en fait, je suis refusée sur le digital et donc par la société.
Il y a une dictature du corps valide aujourd'hui, et ça, c'est indéniable. C'est pour ça que ça fait tellement plaisir de voir des chanteuses comme Lizzo ou comme Iseult en France qui reclaiment leur corps, quoi, qui disent « voilà, ça, c'est mon corps ». Il n'est pas ce que la société valide, il n'est pas tout mince, il n'est pas blanc bronzé, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être trop blanc, mais il ne faut pas être trop noir. Il n'est pas dans tous ces codes que la société nous impose, et en même temps, elles sont là. Fuck it, c'est mon corps, je l'aime, le voilà. Si vous ne l'aimez pas, continuez à scroller et allez vous faire foutre. Et je pense que c'est là le pouvoir des réseaux sociaux, c'est de montrer aux gens en quoi le fait qu'ils soient différents reste valide. Et aujourd'hui, malgré la censure qu'Instagram est en train d'implémenter de plus en plus, parce que les gens qui prennent trop la parole, les gens qui sont trop véhéments, selon les critères d'Instagram toujours, vont être censurés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de comptes que moi je suis, que je vois soit disparaître, soit, par exemple, quand on les recherche dans la barre de recherche d'Instagram, si on n'a pas le nom exact tapé, il ne remonte pas dans les propositions. Et il y a cette espèce de bataille constante entre ce que la société patriarcale a implémenté et ce que l'on voit comme la norme bien-pensante de « Oh, attention, il ne faut pas que les enfants tombent là-dessus » ou des choses comme ça, alors que ton enfant de 4 ans n'a rien à faire sur Instagram.
Ouais.
Même de 10 ans.
Enfin, c'est-à-dire que quand je vois que on peut, enfin, l'âge légal pour rentrer sur les réseaux sociaux, c'est 13 ans. Je suis là, à quel moment, à 13 ans, t'as besoin de partager avec tes amis que t'es en train de chanter dans ta chambre? Enfin, envoie-leur un texto si t'as un smartphone, mais juste, le monde n'a pas besoin d'être au courant que t'es contente d'avoir ton souhait Hello Kitty, quoi. C'est cool, hein, super. Mais Internet est pas un lieu pour les jeunes, à mon sens. Ou alors il faut qu'ils le soient de manière intelligente. C'était le cas sur Tumblr avant qu'il soit racheté par Yahoo, où il y avait beaucoup de contenu sexuel. Mais on pouvait, quand on créait une page Tumblr, notifier qu'elle était interdite aux moins de 18 ans. Et donc, il y avait un avertissement sur ces pages-là à chaque fois pour que les jeunes... Enfin, c'est cet avertissement qu'on a tous contourné quand on était jeunes, mais qui nous dit « As-tu plus de 18 ans ?» Et tu réponds oui ou non. Et si tu réponds non, tu ne vas pas sur la page. Et c'est un truc qui pourrait être implémenté partout. C'est-à-dire que Instagram a des filtres pour les contenus flagués comme violents. Donc ça va être des photos historiques de guerre ou des choses comme ça qui sont OK apparemment sur Instagram, mais t'as un message d'alerte qui te dit « Attention, contenu violent, voulez-vous quand même vous le voir ?» Mais par contre, dès que ça touche à l'intime, dès que ça touche au personnel, ouais, dès que ça touche au corps, là ça devient un tabou et on n'a plus le droit de se montrer, on n'a plus le droit de montrer les choses.
Et c'est là où c'est peut-être justement plus intéressant de mettre cette limite d'âge, parce que il y a un autre sujet sur le digital que moi je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a une vraie information. C'est-à-dire qu'avant les réseaux sociaux, mais comment on s'informait sur sa sexualité? Comment on s'informait sur son anatomie? Enfin, c'est, je le rappelais en intro, mais le clitoris, je ne l'ai vu que sur Instagram. Je ne l'ai jamais vu dans mes manuels scolaires, on ne m'en a jamais parlé. Ma gynécologue ne me l'a pas forcément détaillé. Et donc, cette information-là, elle est hyper importante. Et si des jeunes de 13-14 ans se posent des questions durant leur adolescence sur leur sexualité, sur leur anatomie, ça veut dire qu'ils peuvent la trouver que sur Internet.
Ah, effectivement, ils la trouvent que sur Internet. Mais ils trouvent... Ce que je trouve, tu me partageras ton avis, Léo, c'est qu'il y a de l'information, et des fois, il y a de l'information qui est faussée, parce que la personne parle de choses et que dans la sexualité, il y a des âges et des étapes qu'on ne doit pas passer. Je pense à quelqu'un qui, à 23 ans, sur Instagram, parle de double pénétration. Quand tu tombes là-dessus, tu te dis, mais attends, j'en suis à peine à... Qu'est-ce que c'est que la sexualité, à connaître mon corps? On parle déjà de double pénétration avec sextoys et compagnie. Donc, c'est bien l'information, mais attention... Pour moi, à qui regarde ça, avec qui, et qu'on ne fasse pas encore plus de tabous que ce qu'on a déjà. C'est là, moi, ma crainte, c'est qu'à un moment donné, on fasse plus de tabous.
Oui, parce que je crois que sur Instagram, on peut informer, on peut aussi aller trop vite, souvent, et c'est le truc des nouvelles générations, hein, on voit que tout va de plus en plus vite. Il y a une sexualisation qui est beaucoup plus précoce, qui est de plus en plus rapide, et donc du coup toutes les étapes sont un peu grillées. Donc c'est vrai que l'information est importante. Je pense que ce dont on manque aujourd'hui, c'est d'accompagnement.
Oui, c'est exactement. Individuel en fait, parce que c'est pas la faute forcément de ceux qui vont le diffuser sur Instagram, mais c'est aussi la faute de ceux qui vont le regarder et qui n'ont pas eu d'accompagnement en fait, puisqu'il y a zéro sur la sexualité en France par exemple.
Mais je pense que ça va même plus loin que la sexualité. Enfin, moi c'est ce que j'ai toujours dit aux gens qui me disent « Ah, un tel il est raciste, un tel il est homophobe, un tel il est machin ». Et en fait, je suis là genre, c'est des gens qui n'ont pas été éduqués, c'est-à-dire que c'est des gens à qui il manque cette information. C'est des gens qu'on n'a jamais habitués parce qu'ils viennent de certains milieux, parce qu'ils ont reçu une telle éducation, parce qu'ils ont jamais été en contact avec la positivité autour de ce sujet. Et souvent, quand on voit des gens qui sont misogynes ou qui sont en train d'essayer d'enfermer quelqu'un dans une négativité à propos d'eux-mêmes, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas l'info, on ne leur a jamais appris ce que c'était la différence et ce que c'était le... Ce que c'était d'être pas comme lui, en tout cas.
Que la différence fait peur.
Oui, et en fait, les tabous, c'est ça. Les tabous, c'est un manque d'éducation. C'est-à-dire que... On peut avoir... par exemple, tu parlais de double pénétration. C'est un fantasme pour beaucoup. C'est une réalité pour d'autres. Mais c'est quelque chose qui va s'apprendre, c'est quelque chose que tu vas découvrir avec quelqu'un et que tu vas... Enfin, C'est, et il y a plein de gens qui vont trouver, qui vont direct être dans le rejet du mais c'est dégoûtant, c'est ci, c'est là. Et en fait, non. Enfin, c'est le plaisir de quelqu'un ne peut pas. Enfin, on peut pas juger, on peut pas avoir un jugement de valeur sur le plaisir de quelqu'un.
Ah, c'est impossible. À partir du moment que c'est émotionnel, que c'est ton plaisir, personne n'a le droit, à mon sens, de juger ça. Maintenant, mais pour certaines choses dans la sexualité, il y a des étapes. On ne peut pas faire ça sans bien se connaître, sans bien connaître son corps, sans respecter son corps. Et c'est ça qui me paraît un peu dangereux sur les réseaux sociaux. C'est quand on peut s'exprimer, là, sans, et on, des fois, on n'est même pas censuré, parce qu'on est censuré parce qu'on voit un petit téton, un petit truc d'une femme. Ou ce que tu as dit, Laura, tout à l'heure, un peu trop de nudité. Mais après, sur des contenus, on entend ça, on voit ça parce qu'on fait l'apologie des sextoys, tout ça. Mais il y a des étapes. Et si psychologiquement, ces étapes-là, on n'a pas été éduqué, eh ben, ça peut avoir des blocages, des catastrophes chez certaines personnes. Et moi, ça me dérange par rapport aux réseaux sociaux. Et je trouve qu'il faut de l'information, mais attention à quelle tranche d'âge on la donne.
Et justement, au-delà de l'information, ce qui a aussi été mis en lumière grâce aux réseaux sociaux ou par les réseaux sociaux, je ne sais pas quelle nuance prendre, c'est la mise en valeur des sexualités. Un grand nombre de personnalités prennent la parole, parlent de ce sujet-là, enfin, on le disait déjà tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ça passe par le digital, Léo ? Qu'est-ce qui fait que... Enfin, moi, je me pose toujours la question, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, comment ça se serait passé ?
S'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, on n'aurait pas eu Black Lives Matter. On n'aurait pas eu, MeToo. En fait, les réseaux sociaux sont l'endroit parfait pour prendre la parole. C'est à double tranchant. C'est-à-dire que, à la fois, il y a beaucoup de choses sublimes qui sortent sur les réseaux sociaux et beaucoup de communautés qui se créent et beaucoup de moments incroyables qui arrivent à voir le jour grâce à ça. Le revers de la pièce, c'est qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi beaucoup de messages de haine et il y a aussi beaucoup de... cette masse bien pensante qui vient écraser les gens qui rentrent pas dans leur vision de la norme, même si je crois que la norme n'existe pas. Mais oui, les réseaux, notamment par exemple pour la communauté gay, Tumblr était un réseau de choix parce que ça permettait de créer des pages qui sont à la fois esthétiquement jolies et en même temps très riches en termes de contenu. Donc c'était devenu à la fois un lieu d'expression personnelle et un lieu d'expression sexuelle. C'est-à-dire que les gens créaient leur page, leur propre page YouPorn. Tu mettais sur Tumblr tout ce que tu avais envie de voir, tu mettais tous tes fantasmes, tu mettais tout ce qui te définit sexuellement. Tu pouvais l'avoir et entre les mains de manière légale et de manière ludique et sympathique. Et quand Yahoo a racheté la plateforme, ils ont évidemment décidé d'en faire un environnement family-friendly. Donc, on censurait tout ça.
C'est que dans l'espace public, en fait, on ne donne pas la possibilité de faire en fait, ce que tu viens de dire sur Tumblr. En fait, c'est peut-être ça la différence et le fait que c'est passé par Internet aussi, cette mise en valeur des sexualités. Enfin... Peut-être que je m'avance aussi là-dessus, mais...
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, dans l'espace public, il y avait déjà ce qu'on appelait les lieux de cruising, qui sont des lieux de rencontres gays qui se sont créés à l'époque où être homosexuel était illégal. Et en fait, avec la dépénalisation de l'homosexualité, ces lieux ont eu tendance à disparaître au profit des bars et des choses comme ça, ce qui est super. Mais tout ça, c'est aussi transformé avec la digitalisation de tout. Et donc forcément, on est arrivé à un moment où les gens ont pris le pouvoir du digital pour s'exprimer parce qu'aujourd'hui, c'est encore tabou de voir deux hommes se tenir la main dans la rue, de voir tout ça. Et en fait, je crois qu'on a, dans la communauté LGBTQIA+, vu qu'on a été obligé d'explorer notre sexualité et qu'on a été obligé de la revendiquer, j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise avec aussi. Et donc, on va en parler plus librement. Et donc, on va jouer avec plus librement aussi. Et c'est là aussi que je pense qu'on est devenu plus expositif à travers ça.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu parlais justement des lieux de socialisation qui s'étaient créés suite à ça. Sur Instagram, on observe aujourd'hui que, au-delà, enfin, et puis d'autres réseaux sociaux, hein, mais surtout Instagram quand même, au-delà de la partie sexualité, donc l'information, les messages, les artistes, ça devient un peu un site de rencontre aussi. Et qu'est-ce qui fait en fait que on a réussi, enfin moi je trouve ça très positif, qu'est-ce qui fait que la rencontre se crée à travers ça, comment s'est passée aussi cette drague-là, cette séduction sur ce réseau?
Bah, je pense que les outils qu'on nous donne sont très prônes à ça aujourd'hui. C'est très marrant de voir comment chaque chose qui a été développée un jour pour des adolescentes dans leur chambre est devenue un outil sexuel. À un moment, je pense à Snapchat, qui était le premier chat de vidéo éphémère qu'on avait et qui est devenu juste le paradis du sexto. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde s'envoyait des sextos sur Snapchat. C'était utile pour ça, c'était pratique pour ça. Donc quand Instagram l'a intégré en interne, évidemment que ça s'est transféré là-bas, parce qu'en fait, ce qui est super avec les réseaux sociaux, c'est qu'on rentre dans l'univers de la personne à qui on parle presque instantanément. C'est-à-dire qu'on va, à travers les images que la personne poste, on va découvrir ses centres d'intérêt. On va découvrir... en fait, on a une vue plus globale de la personne qu'on a en face de nous. Donc, évidemment, c'est devenu un lieu de drague de choix, je pense.
Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de... Dans les applications de rencontres, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui mentent sur leur identité, sur leur prénom, sur tout ce que tu veux, sur des photos, machin. Est-ce que tu crois que là, par rapport avec Instagram, où il y a aussi ce phénomène de drague, c'est plus réel que les applications de rencontres?
Oui, je pense qu'il y a un truc qui est forcément rassurant, parce qu'on se dit que la personne, on voit la vie de la personne, donc la personne est forcément réelle, ce qui n'est pas forcément vrai, parce que j'ai une anecdote là-dessus très intéressante. Mais surtout, je pense que c'est pour ça, par exemple, que Tinder a eu un super décollage quand il s'est lancé en France, c'est qu'il était lié au profil Facebook de la personne, et à l'époque, on ne pouvait uploader que des photos qui étaient sur notre profil Facebook. Et on sait que sur Facebook, tout le monde fait très attention à ce qu'il poste, donc c'était rassurant. Et Instagram a eu ce pouvoir-là après. Mais attention toutefois, parce qu'il y a des catfish aussi sur Instagram, et moi je sais que je m'étais fait catficher par quelqu'un qui récupérait les images et les stories de quelqu'un d'autre et qui les postait, et en fait, qui n'était pas du tout cette personne. Donc il y a du mirage partout.
C'est joli comment tu dis ça, il y a du mirage. C'est très poétique pour quelque chose de pas
très sympa.
Si poétique. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, enfin, en fait, on parle beaucoup des réseaux sociaux depuis tout à l'heure, mais parce que j'ai l'impression que ça occupe quand même la plus grande place sur Internet, on va pas se mentir.
Surtout en période de pandémie où c'est le seul lien social qui nous reste.
Exactement. Et c'est vrai que la pandémie, j'ai l'impression qu'elle a accéléré beaucoup de choses. Sur la sexualité, sur Instagram notamment, ou sur d'autres réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de prises de parole sur des choses qui étaient peut-être avant un peu taboues. J'ai cette impression un peu naïve de se dire, bah, parce que les gens étaient chez eux, en tout cas je parle en l'occurrence de mars où c'était un confinement imposé, et bah en fait c'était qu'est-ce que j'en ai à foutre de pas être épilé, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on me juge parce qu'aujourd'hui j'ai posté telle photo de moi et que je me suis maquillée dessus alors que je suis un homme et que la société ne veut pas que je fasse ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de liberté de chacun en fait sur ces réseaux-là. Il y a eu beaucoup plus d'être soi.
Bah parce qu'on s'est tous retrouvés face à nous-mêmes en fait. C'est-à-dire que oui, enfin il y a des gens qui ont passé leur confinement avec d'autres personnes évidemment, mais même dans ce cadre-là, il y a un moment où on est toujours obligé de s'intérioriser et de se dire genre, ok, c'est encore une journée où je vais vivre la même chose, où je vais être face à ce qui m'est offert dans le cadre de mon appartement. Par exemple, moi, j'ai passé mon premier confinement, je l'ai passé tout seul. Et forcément, faut trouver un truc pour s'amuser. Et la première chose qu'on a sous la main, c'est notre corps. Donc, on va forcément l'étudier plus, on va forcément apprendre à le connaître aussi. Je pense que, il y a plein de gens qui ont bravé le confinement, le couvre-feu pour aller rencontrer des gens, pour, euh, pour vivre une sexualité parce qu'ils étaient tout seuls chez eux et qu'il y a un moment où ça devient lourd à porter tout seul. Mais je crois qu'on est obligé, dans ce genre de situation, d'apprendre à se connaître et de s'amuser avec soi, en fait. Moi, je sais que je postais un look par jour, j'ai sorti tous mes talons, tous mes manteaux, tous mes trucs, je me suis éclaté parce que j'avais que ça, en fait. La seule interaction que j'allais avoir, c'était de présenter au monde comment je me sentais jolie dans mes pulls rayés de toutes les couleurs, quoi.
Et toi, Carole, on en avait déjà un peu parlé en faisant cet été des micro-trottoirs sur la terrasse de Grand Contrôle quand c'était ouvert, pour connaître un peu ce qui s'était passé pour tout le monde, en fait, dans leur sexualité. Qu'est-ce que toi, tu retires aujourd'hui comme leçon sur cette pandémie qui, d'ailleurs, n'est toujours pas terminée, et sur l'impact sur la sexualité, et notamment, en fait, sur Internet? Est-ce que les gens ont mieux appris à se connaître? Est-ce que ça a créé aussi d'autres dangers? Je pense notamment aux violences sexuelles dans les couples. Enfin, qu'est-ce que ça a permis?
Ce que ça a permis et ce que ça continue à faire, c'est qu'on est en train de tuer notre sexualité. Actuellement encore, puisque on est en couple, soit on est tout seul. Si on est tout seul, qui on va rencontrer? Comment les réseaux sociaux aujourd'hui, on a le banc public pour aller se rencontrer, une balade. On va faire venir les gens chez soi. On n'ose pas, on montre vraiment son intimité. Les envies sont présentes, les envies de se rencontrer, mais on va toujours plutôt en ce moment d'aller dire les ex. On recontacte les ex, c'est connu, sécurisant.
Mauvaise idée.
Sans doute mauvaise
Souvent.
Idée. Oui, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'addiction à la pornographie pendant le confinement. Mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'on connaît bien son corps? On connaît bien sa sexualité? On a aussi beaucoup de gens maintenant qui ne font plus de sport, qui du coup sont toujours pas bien. On a de plus en plus de gens qui sont pas bien. Et si t'es pas bien, c'est encore plus difficile d'être pas bien dans ta sexualité, si t'étais déjà pas au courant de qu'est-ce que tu voulais dans ta sexualité. Donc, on tue de plus en plus notre sexualité. Mais comment le dire? Comment je pourrais le dire, Laura? Je le dis pas effectivement sur mon Instagram parce que j'ose pas. Mais il faut que les gens prennent conscience de ça. Et puis, sur tout ce qui est l'agressivité, c'est sûr qu'on peut vite recevoir des photos de sexe. Ah ouais, tiens, je suis en train de discuter avec toi, mais je t'ai pas demandé ça. Voilà, c'est de l'agressivité, hein, c'est de l'agression sexuelle, hein, de recevoir une photo d'un sexe comme ça, sans avoir demandé. Quand on a demandé encore et qu'on partage ça, ok, ça fait partie du jeu sexuel, ouais. Et c'est ok. Mais quand on sent des demandes oppressantes d'aller dans la sexualité, mais comment? On ne sait pas. Et puis dans les couples aussi, il y a eu soit des gens qui se sont redécouvert leur sexualité, mais soit ils avaient des enfants, donc ils osaient pas. Moi, j'ai plein de gens, je leur propose, je les invite à, pendant leur pause déj, d'aller dans leur sexualité. Parce que je leur dis toujours, votre patron ne le saura pas. Peut-être qu'il fait la même chose. Mais au moins, pendant les enfants sont à l'école. Donc il y a des gens qui ont dit, ah, ok, on a retrouvé notre sexualité grâce à ces petits moments. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, beaucoup dans télétravail, donc qui sont complètement fatigués, qu'est-ce qu'elle nous parle, sexualité? Mais non, on a mis ça de côté, on verra ça plus tard, pendant les vacances peut-être, mais quand est-ce qu'on va repartir en vacances? On ne sait pas. Et puis, beaucoup les gens sont sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut qu'on se vide la tête. Alors, on peut se vider la tête, mais franchement, si on fait l'amour, on se vide davantage la tête que les réseaux sociaux. Et après, ce qui est intéressant aussi dans les réseaux sociaux, c'est qu'on peut apprendre, les gens peuvent apprendre des choses. Il y a des choses très bien faites. Il faut aller découvrir aussi grâce aux réseaux sociaux.
Et alors, Léo, j'ai une dernière question qui est un peu spécial, mais je pense très utile, c'est comment est-ce qu'on fait pour continuer à lutter sur les réseaux sociaux pour sa sexualité, pour son existence en tant qu'être humain. Quand on voit aujourd'hui c'est cette censure menée par Instagram, c'est... tout le monde est outré, mais il ne change rien. C'est assez étonnant comme situation. Y a des tribunes qui sont faites. Enfin, dans Mediapart, il y en a une récemment. Tout le monde dit qu'il y a un problème. Les gens restent présents. Il y a d'autres comptes qui ne sont pas censurés et on continue à lutter pour le droit d'exister et de diffuser aussi ce qu'on souhaite dans le respect des autres. Qu'est-ce que toi, comment tu luttes, toi, par rapport à ça? Parce que je sais que tu as déjà été censuré. Comment tu réussis, en fait, à continuer ton travail en te disant que ce n'est pas vain et que tu vas quand même réussir à porter ta parole?
C'est une très bonne question parce qu'en fait, en effet, Instagram est devenu une espèce de dictature de ce qui est bien ou pas sans avoir d'échappatoire réel. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de comptes qui se font désactiver sans autre forme de procès, sans savoir pourquoi. J'ai des amis drag queens, par exemple, leurs comptes ont été supprimés alors qu'elles ne postaient rien qui était trop sexuel ou qui était trop...
dévêtu.
Ouais, ou même extravagant ou choquant. C'est-à-dire que c'est littéralement des hommes maquillés, c'est-à-dire que des hommes maquillés avec une perruque, il y a rien de choquant là-dedans. Mais quand on voit Last Hitman qui s'est fait désactiver son compte, pareil, sans forme d'explication, sans possibilité de le réactiver. Et en fait, on n'a pas d'outils de lutte aujourd'hui. Moi, mon plus grand espoir, c'est que des artistes vont s'allier à des développeurs et qui vont créer une nouvelle application.
Ah, ouais.
Ça, je suis là, genre, si quelqu'un m'entend, faites-le, s'il vous plaît, créez un espace qui soit libre, où les gens pourront exprimer qui ils sont et tout ce qu'ils sont sans cette chape de plomb de ce qu'on a le droit de faire ou de dire, qui est dicté par des gens qui n'ont même pas les mains dans ce qu'on fait. Enfin, c'est-à-dire que, genre, tout ça est décidé dans un bureau par des gens qui n'ont jamais rien vu de ce qu'on essaye d'exprimer. Donc, pourquoi c'est la... Enfin, pour moi, c'est... En fait, tout se rejoint sur des questions très éloignées, mais qui, pour moi, viennent du même endroit. Par exemple, on nous dit le genre, c'est ça, mais qui est-ce qui a défini le genre? On nous dit la bienséance, c'est ça, mais qui est-ce qui a défini ça? Pourquoi est-ce que la sexualité est devenue la lutte ultime de tous les réseaux sociaux aujourd'hui? Pourquoi est-ce que...
Parce que c'est la plus intime.
Parce que ça leur rapporte pas d'argent. Parce qu'en fait, Instagram aujourd'hui, c'est devenu une grosse... C'est le plus grand centre commercial du monde, Instagram, aujourd'hui.
Par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre comment est faite la censure. Parce qu'il y a des comptes, on se dit, mais attends, ça, c'est d'utilité publique.
Oui.
D'accord. On nous montre des photos d'hommes, sans toutes ces... petit, gros, voilà, c'est le monde. Et d'autres comptes ne sont pas censurés et qui disent, pour moi, des bêtises énormes sur la sexualité. Et j'ai comme l'impression que la sexualité fait vendre, mais encore la mauvaise sexualité. Et qu'on ne permet pas aux gens qui sont différents, qui ont une autre sexualité, de pouvoir vraiment s'exprimer. Enfin, de vraiment, à un moment donné, dire on est comme ça, et alors ?
Il y a encore cette censure hétéronormée où je vois plein de choses. Par exemple, des corps de femmes dénudés, si on ne voit pas les tétons, parce que les tétons, c'est le big no-no d'Instagram, mais si on ne voit pas les tétons, qui seront moins censurés que d'autres choses qui seront de la sexualité masculine. Parce que ça fait bander les gens qui dirigent Instagram. Donc du coup, c'est plus simple pour eux de garder ça plutôt que d'autoriser une communauté queer à se sentir validée. Et en fait, je crois que ce qui fait peur aux gens, c'est que quelqu'un qui ne leur ressemble pas prenne le pouvoir.
Ah bah...
Et c'est ça pour les femmes, c'est ça pour les personnes racisées, c'est ça pour les minorités sexuelles et les personnes qui ont un genre... différent de ce que les gens ont l'habitude de voir. Et je crois que c'est ça, en fait. Je crois qu'on est dans une guerre du pouvoir digital qui... Alors qu'en fait, nous, on veut pas prendre le pouvoir, hein, on veut juste exister et se marrer, quoi.
Mmh.
c'est la différence.
À côté de ça, tu vois, on laisse des jeunes femmes de 16, 17 ans en train de se photographier, montrer leurs fesses, comment elles sont faites. Et on ne censure pas. Et pourtant, on sait les dégâts que ça peut faire à côté. Comment elles peuvent être instrumentalisées, qu'elles peuvent faire fantasmer des hommes, qu'il peut y avoir à côté de ça des agressions. Et ça, on laisse faire. Et d'un autre côté, quand on veut dire on est différent et on va vous montrer ce que c'est, parce que comme ça, c'est, tout le monde va être content, tout le monde se fait plaisir, on n'autorise pas.
Donc la première solution, déjà, c'est espérer qu'un développeur s'allie à un artiste. Et ensuite, donc on espère que cette solution va arriver très vite. Mais comment réellement, toi, tu fais là, du coup, au quotidien, pour continuer ?
Bah, moi, je relaie la parole de beaucoup d'artistes qui, justement, vont parler de ces choses-là et vont être positifs dans leur approche de tout ça et vont oser prendre le risque d'être censurés parce que leur voix est trop forte. C'est-à-dire que, en fait, il faut juste pas accepter la censure et il faut se battre en soutenant les gens qui justement osent et créent du contenu qui va être disruptif et qui va aller à l'encontre de ce que la société essaye de nous imposer aujourd'hui. Je pourrais vous faire une liste avec plaisir de super comptes, majoritairement anglophones, parce que c'est une langue qui me parle, mais de super comptes qui justement vont transmettre tous ces messages d'inclusivité et d'éducation. Enfin, c'est-à-dire que je suis notamment des comptes hyper... hyper éducatif sur tout ce qui est possible et imaginable en tant que féminisme, en tant que inclusivité LGBTQIA+. Enfin, il y a des gens qui se battent pour l'intégration de tout le monde, et je pense que la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de les soutenir et de les accompagner dans cette chose-là.
Et ben Léo, on veut bien la liste, et puis on va surtout dire à celles et ceux qui nous écoutent de te suivre sur Instagram, sur Léo Trémen. Merci d'être venu partager ce moment. C'était hyper important pour nous parce qu'en fait, c'était un épisode qu'on devait faire en octobre. Et puis, il y a eu un deuxième confinement. Oui. Et donc, on l'attendait avec impatience. Alors, merci pour ta bienveillance, ta connaissance et tout ce que tu as pu apporter dans cet épisode. Nous, on se dit à très vite. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en DM, des vocaux. On pourra vous répondre en podcast. Et puis surtout, à nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Ce serait sympa. À très vite.
C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grande Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.